L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM en direct à midi et en rediff le soir même à 18h. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile à louper hein, quand on arrive dans certaines communes du Finistère, comme Locronan, Pont-Croix, mais aussi Le Fou. Vous savez, de grands portiques métalliques plantés au milieu des ronds-points. À l'entrée des villages sur lequel est suspendu un blason « Petite cité de caractère ». Alors non seulement c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper, mais ça annonce directement la couleur. Vous vous apprêtez à entrer dans l'histoire. Mais les petites cités de caractère, les PCC pour les intimes, ce n'est pas qu'une enseigne d'une taverne du XIIe siècle. Non, ce n'est pas non plus une église ou du bâti classé. Alors qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi? J'ai avec moi aujourd'hui Fantine Rosel qui est chargée du développement de PCC de Bretagne et vous êtes accompagnée de Sarah Chajari. C'est ça, hein?
Parfait.
Vous êtes photographe et gérante de l'entreprise L'Atelier du Canal à Rennes. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Alors, vous venez donc toutes les deux de Rennes. Vous êtes au Fou aujourd'hui dans le cadre d'un projet sur le patrimoine vivant. On en parlera un petit peu, bien sûr, même pas qu'un petit peu, hein, tout à l'heure. Mais il est quand même important quand même d'expliquer ce que c'est que les PCC et comment ça marche. Alors, d'où ça sort les PCC, Fantine?
Eh ben, le concept des petites cités de caractère, il est assez ancien puisque l'asso va bientôt fêter ses 50 ans en 2025. C'est un concept qui a émergé du coup en 1975 lors de l'année européenne du patrimoine architectural et à l'époque où on promouvait beaucoup le tourisme en Bretagne intérieure et on souhaitait inciter les gens à quitter un petit peu le littoral et cette image de carte postale pour découvrir les villes historiques et patrimoniales qui maillent notre belle région.
Ah, c'est un concept breton à l'origine?
Ouais,
alors.
Toujours. On commence toujours par la Bretagne. Donc le concept des petites cités de caractère est né en Bretagne pour valoriser des villes atypiques qui sont à la fois rurales par leur population limitée, moins de 6000 habitants, et aussi urbaines par leur patrimoine de qualité, leur patrimoine bâti, que vous connaissez peut-être, vous qui nous écoutez. Et à l'époque, 5 maires, donc des communes suivantes, Montcontour, Locronan, Rochefort-en-Terre, Quintin et Jugon-les-Lacs, se sont dit, mais oui, nos villes ont des histoires, ont marqué l'histoire de la Bretagne, mais leur population décline et nous souhaitons en fait nous rassembler pour trouver des fonds, valoriser ces héritages et rendre attractives nos villes. Donc elles furent accompagnées dès l'origine par M. Jean-Bernard Vigetti, à qui nous devons beaucoup, qui était délégué technique auprès de ces communes. Et donc ensemble, ils se sont fédérés en association autour d'une charte de qualité pour prendre soin, valoriser ces villes et ces cadres de vie. Tout a commencé il y a 50 ans.
D'accord. Et alors aujourd'hui, c'en est où? Ça a un petit peu dépassé les frontières de la Bretagne, hein, je crois.
Oui, tout à fait. Alors déjà, le réseau en Bretagne s'est agrandi puisqu'on compte aujourd'hui 31 cités emblématiques membres du réseau en Bretagne. Super, bravo à nous. Et on est évidemment ouvert à des nouvelles communes, on y reviendra. Et le réseau, effectivement, a essaimé dans d'autres régions, d'autres départements ou régions. Et nous sommes aujourd'hui fédérés par une association nationale. Donc lors de vos vacances, vous pourrez découvrir plus de 230 cités à travers la France.
Alors dans quelle région ou quel département, par exemple?
Grand Est, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, nouvellement en Ile-de-France, également en Corse. Et nous sommes également en contact avec une commune martiniquaise pour un déploiement du réseau Outre-mer.
Alors le projet de départ par rapport à celui que vous avez, enfin que les petites cités ont aujourd'hui, il a changé ou ça n'a pas bougé?
Non, le concept reste le même. Les missions premières de l'association, donc qui est basée à Rennes, c'est vraiment d'accompagner les membres de l'association, donc les élus. Nos interlocuteurs sont vraiment les maires et les élus, de les accompagner dans leur politique de sauvegarde, valorisation, animation du patrimoine. On a, de nombreuses missions. L'idée, c'est aussi de fédérer et de mettre en réseau tous ces élus pour qu'ils puissent partager leurs problématiques et s'enrichir les uns les autres grâce à des commissions de contrôle, des journées techniques, etc. Puis après, au fil du temps, il y a d'autres missions qui se sont, affirmées, comme l'animation culturelle, la promotion de ces cités ou la sensibilisation au jeune public.
Alors, il y a plein de labels hein, comme ça qui existent pour valoriser le bâti, choses comme ça. Je pense par exemple à celui que j'avais noté, c'était Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire. Qu'est-ce qui vous différencie de ce genre de label ?
Alors nous, par exemple, au sein de notre équipe, on est vraiment partagés. Les salariés sont partagés entre l'accompagnement à la fois des communes labellisées petites cités de caractère et aussi des villes d'art et d'histoire. Alors pour ce label qui est connu, les villes d'art et l'histoire, on rappelle que c'est un label d'État. Et qui nécessite aussi la création d'un poste. Donc une personne un peu chef d'orchestre pour piloter toutes les actions d'animation qu'on appelle un animateur de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est des villes qui comptent plus de 20 000 habitants souvent. Nous, on est vraiment sur un label associatif. Il n'y a pas forcément de poste dédié dans les communes directement. Donc c'est vraiment mon rôle aussi de venir en soutien de ces collectivités. Et on est vraiment dans des villes de moins de 6 000 habitants, des villes rurales.
D'accord. Alors ma grande question, moi, c'est comment on fait et comment ça marche les PCC ? Comment on adhère aux petites cités de caractère ? C'est quoi les critères ?
Alors, tout d'abord, c'est vraiment à la commune de venir vers l'association. L'association ne fait pas de démarchage auprès d'autres communes. Pour rejoindre le réseau, il y a des critères d'admission qu'il faut respecter au préalable, notamment avoir moins de 6 000 habitants, avoir un patrimoine dense et homogène qui donne tout de suite l'aspect d'une cité où on sent qu'il y a une âme, un esprit des lieux, tout ça. Il faut aussi que la commune soit impliquée dans ce qu'on appelle un programme pluriannuel de mise en valeur des patrimoines, c'est-à-dire que la commune ait déjà commencé à se projeter dans un temps long en termes de phasage pour conduire des opérations de entretien de l'espace public, réhabilitation du bâti, accueil des visiteurs, enfin voilà, on se concentre une dynamique aussi touristique, puisque les petites cités, c'est à la fois un projet patrimonial et touristique, on est vraiment dans une promesse faite aux visiteurs de déambuler, rencontrer des villes au cadre non standardisé, mais il y a vraiment tout un travail qui est fait avec les acteurs du tourisme aussi pour promouvoir ces destinations. Donc voilà, des critères préalables à respecter, et ensuite tout un tas de critères qui sont listés dans une charte de qualité qu'on peut trouver en ligne. Hein, je ne vais pas tout décrire ici.
Allez, quelques exemples.
Par exemple, organiser des manifestations commerciales ou artisanales qui mettent en valeur des savoir-faire locaux, ou alors se doter d'un lieu d'hébergement ou d'un restaurant, voilà, pour satisfaire aussi les demandes des touristes. On peut aussi penser à la participation à la vie associative au cadre de ce qu'on organise, comme les assemblées générales, les journées techniques, pour que les élus voilà, se rencontrent. C'est assez riche. Je vous invite à consulter la charte.
D'accord. Il y a d'autres engagements que doivent prendre les communes ?
Qu'est-ce que tu entends par
Par exemple, je ne sais pas, de l'entretien, de la préservation, de la conservation.
Forcément, c'est vrai que quand on parle de cadre de vie, on peut penser à des choses très techniques comme être soucieux du revêtement des voiries, par exemple. Voilà, essayer d'avoir du beau pavé, enfouir les réseaux aériens. Ça peut être aussi camoufler tous les dispositifs comme des poubelles ou veiller à avoir une signalétique homogène dans la ville.
Espace voilà. Naturel aussi, ça c'est pris en compte.
Oui, c'est ça. On incite beaucoup les habitants à végétaliser les bourgs qui sont assez... où l'aspect minéral ressort beaucoup du fait du granit notamment. Donc on a une opération avec les habitants qui s'appelle Fleurissons nos rues, qu'on conduit depuis 3 années. Et donc on distribue aux communes et aux habitants des sachets de graines avec des espèces locales principalement pour que les habitants puissent aussi être fiers de verdir un petit peu leur ville.
Alors c'est un engagement à vie ou est-ce qu'on peut le perdre ce label ?
Alors on peut le perdre. En fait, les communes sont contrôlées tous les 5 ans par une commission de contrôle qui est composée à la fois de représentants de l'association nationale, l'association Bretagne, partenaires comme la région, un parc naturel comme ici au Fou, si on pense au parc naturel régional d'Armorique. Voilà, il y a plein de partenaires autour de la table des élus et ensemble, nous faisons un tour dans la ville, une déambulation avec les élus. Ils nous présentent les projets en cours et à venir. Et ensuite, il y a un gros tour de table qui peut durer parfois 2 heures où chacun s'exprime et voilà, ça se pimente un petit peu en fin de journée pour voir si la commune reste garde le label ou si elle est rétrogradée.
Et vous savez combien de temps ça prend à partir du moment où on décide de vous contacter pour devenir une petite cité et puis le moment où on a son beau portique à l'entrée ?
Eh bien, l'association est dirigée par Madame Claire Lucas, qui, elle, fait un gros travail d'accompagnement des communes via des réunions de terrain, etc. On peut compter 1 année. On va dire, pour que la commune puisse constituer un dossier de candidature et qu'on cale ensuite une commission d'homologation.
Ouais. Donc ça va, c'est assez rapide en fait.
Ça peut être rapide. Après, il faut un gros portage des élus, des services derrière.
Et vous avez beaucoup de demandes ?
On en a une à deux par an. Enfin, ces dernières années, on en a eu pas mal. Il y a des nouvelles communes qui ont rejoint le réseau que vous connaissez peut-être. Le Conquet, qui n'est pas très loin du Fou. Pont-Scorff, Pont-Aven également, que les gens connaissent davantage.
Ah oui ?
Ouais. Donc ces dernières années, pas mal de rentrées, mais le réseau n'a pas non plus pour but à s'élargir à l'infini.
Oui, parce que de toute façon, c'est les communes qui viennent vous voir, donc c'est pas votre truc. Quoi.
Non, c'est pas notre truc. Et puis on n'accumule pas non plus les trophées, le but c'est que l'accompagnement derrière aussi suive et qu'on soit en capacité d'accompagner notre trentaine de communes comme il se doit.
Et ben, c'est une belle transition parce que justement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites ? Une fois que vous avez créé le lien entre l'association et puis la cité, qu'est-ce que vous faites dans les cités qui sont admises ?
Alors, déjà, repréciser que le label Petite Cité de Caractère n'est pas un label honorifique qui viendrait parachever une démarche. C'est pas un label qui a pour but que une visibilité touristique. Derrière, ça déclenche vraiment un accompagnement de la part de notre équipe. Donc, on est environ 3 personnes pour accompagner les communes. Ça déclenche aussi un accompagnement financier de la région Bretagne, qui est en fait le partenaire financeur de l'association depuis l'origine. Et donc, les communes, finalement, peuvent soumettre des dossiers de travaux de tout type sur le patrimoine à la région. Et la région Bretagne a vraiment un axe de soutien envers nos cités labellisées. Donc ça commence souvent par là, par des chantiers sur des remparts ou la réhabilitation d'une friche. Enfin, ça peut commencer par un projet un peu phare. Et ensuite, on adresse tout un tas de préconisations à la commune, liées aux critères de la charte de qualité, pour que la commune puisse... on va dire, bien anticiper et s'organiser les années suivantes pour œuvrer en faveur de tout ce qu'on a parlé, qualité du cadre de vie.
Et vous avez d'autres partenaires que la région ?
Ouais, on a d'autres partenaires, alors notamment pour les projets culturels, ça peut être au fil de l'eau, on parlera plus tard de la Corlab. On travaille aussi beaucoup avec l'association Bretagne Culture Diversité, que vous avez sûrement déjà entendu sur les ondes, qui s'attachait plus particulièrement au patrimoine culturel immatériel. Après, on peut créer des partenariats plus ponctuels, là dernièrement avec l'association Quai des Bulles, qui organise le festival éponyme de bandes dessinées chaque année, dans le cadre d'un accueil d'artistes en résidence. Donc, c'est des partenariats qui peuvent être plus parlants, je pense, pour vous qui nous écoutez. Après, on travaille aussi avec les départements, les communautés de communes. C'est au contact de pas mal d'acteurs en Bretagne.
Bah, d'accord. Donc, j'imagine que vous avez des axes, des piliers de travail. On a parlé un petit peu du bâti. Bon, c'est ce qui paraît le plus évident.
Ouais.
Il y a la culture.
Ouais, carrément. On va dire, une fois que le patrimoine est bien sauvegardé, bien entretenu, il faut le transmettre, il faut l'animer aussi. Et puis le patrimoine peut être un bel écrin pour des animations culturelles notamment. Je précise aussi que certaines de nos villes possèdent des équipements culturels de qualité et de proximité, parfois dans des lieux patrimoniaux. Si on pense à Château-Giron et son château, dotée d'une ancienne chapelle depuis le Moyen-Âge. Cette chapelle est aujourd'hui réhabilitée en centre d'art Les Trois Chats et accueille des milliers de visiteurs par an. Donc le patrimoine peut être aussi un écrin à la culture. Et des artistes peuvent aussi venir chez nous, par exemple, en résidence pour représenter le patrimoine en peinture, par exemple, en BD. Enfin, il y a plein de liens à tisser.
D'accord. Il y a d'autres domaines ? Il y aurait d'autres domaines que la culture et le bâti ?
Eh bien, le tourisme durable notamment. Nous, là, on s'interroge aussi sur la manière, finalement, d'opérer une transition, on va dire, plus écologique dans nos villes. On s'intéresse notamment aux voies de circulation et aux liaisons douces, en fait, qui peuvent relier nos villes. Comment aller d'une ville à une autre, à pied, en vélo, en cheval, si on pense à Équibraise notamment. On s'intéresse aussi à la redéfinition de nos offres d'hébergement, aux infrastructures d'accueil vélo. Enfin, c'est en germe.
Donc, vous aidez aussi à améliorer le cadre des villes. Donc, j'imagine que vous travaillez aussi sur la surfréquentation du tourisme. Parce que si vous faites ça dans le but d'amener des gens pour visiter la ville, pour participer un petit peu au patrimoine... il y a un moment donné, il pourrait y avoir une surfréquentation. Alors, oui. Comment vous faites pour maîtriser ça?
Déjà, c'est une volonté des élus. C'est-à-dire que les élus de nos petites cités de caractère ne veulent absolument pas devenir des villes musées, des villes sous cloche. Leur idée, c'est vraiment d'œuvrer dans un respect du patrimoine et puis de la redynamisation économique aussi de leur ville. Quand on parle d'attractivité, ce n'est pas forcément une attractivité des touristes. C'est aussi de veiller à avoir un cadre de vie qualitatif pour accueillir des nouveaux habitants, mais aussi pour attirer des acteurs socio-économiques, des artisans, des entreprises. Le label, je dirais, s'adresse plus aux habitants qu'aux touristes dans une première partie. Après, les visiteurs, lorsqu'ils arrivent sur site, c'est aussi à nous de leur expliquer au travers de supports de médiation que l'idée dans les petites cités de caractère, c'est plutôt de prendre son temps, de déambuler, d'aller à la rencontre des habitants et de prendre son temps, mais surtout de respecter les ressources, le site et de le comprendre. Donc c'est aussi notre travail au travers des supports de médiation de bien présenter ce que sont et ce que ne sont pas les petites cités de caractère. Donc, je dirais que c'est plutôt des villes à vivre et à découvrir de manière sobre plutôt que des villes à envahir. Et c'est vrai que dans nos villes, on trouve pas forcément... Il y a des offres d'hébergement, mais il y a très rarement du surtourisme. On veille également à bien concevoir les flux de circulation, les places de stationnement dans ces villes pour inciter les gens à se garer en périphérie, vraiment poser la voiture et ensuite prendre le temps d'apprécier ces cadres patrimoniaux.
Alors, je prends l'exemple par exemple de l'Ocronan. Ils ont installé il y a quelques années des parkings à l'extérieur.
Ouais.
C'était de...
Voilà, ça fait partie des préconisations qu'on adresse. On peut penser aux fous aussi, avec les gens qui se garent devant la mairie sur l'ancienne place des foires, notamment, et ensuite posent la voiture, peuvent descendre tranquillement la grande rue, se balader sur les quais du port, aller découvrir l'église Saint-Sauveur, tout ça. Mais le parking est bien en périphérie, effectivement. Après, c'est une question de phasage. Toutes les communes... non, pas forcément ce genre de parking, mais en tout cas, c'est un souhait de l'association que de les inviter fortement à réfléchir à ces questions.
Mais ça se passe comment? C'est la mairie qui vient vous voir en disant bah voilà, on a un problème maintenant, bah, on est labellisé, maintenant on a trop de monde.
Ouais.
Comment on fait pour pas casser la charte et puis faire un parking à l'extérieur?
Par nos expériences, le label n'a jamais créé de surfréquentation.
Ouais,
contrairement à d'autres labels comme Plus Beau Village de France, où souvent on observe que dans les 3 années qui suivent la labellisation, on observe une grande vague de communication et des foules qui viennent. Ce n'est pas le cas de notre label. Après, effectivement, à l'Ocronan, qui donne une image d'une petite cité hors du temps, on a, je dirais, ces exceptions de villes comme l'Ocronan et par exemple Rochefort-en-Terre, qui sont effectivement un peu plus touristiques que d'autres à certaines périodes de l'année. Rochefort-en-Terre peut être très paisible, on va dire en début d'automne, et au contraire accueillir des visiteurs curieux des illuminations au moment des fêtes de Noël.
Et quel genre de problématiques vous pouvez rencontrer dans votre travail? Des problèmes, les choses un petit peu difficiles à régler. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce qu'il y a des difficultés ou pas?
Je ne suis pas forcément, je pense, la meilleure personne pour en parler en tant que chargée d'animation culturelle. Peut-être plutôt la directrice, Madame Claire Lucas, qui est vraiment au contact des communes et on va dire plus sur le terrain dans ces problématiques urbanistiques. Mais globalement, je tenais aussi à rappeler que les élus de ces petites communes sont vraiment des gens très investis, très impliqués pour leurs concitoyens. Donc généralement, il y a de la bonne volonté quand même qui va derrière, je pense, pour... respecter au mieux le projet associatif et la charte. Donc,
D'accord. Alors, en parlant de projet, il y a eu un super projet cet été concernant le patrimoine vivant. C'est pour ça aussi que vous êtes là, un petit peu, Sarah. On ne l'entend pas beaucoup, hein. Elle est sage.
J'écoute.
Elle écoute. Et du coup, c'était quoi ce projet qui a eu cet été avec le patrimoine vivant?
Alors, cet été, à l'été 2023, l'association des petites cités de caractère s'est associée à la Corlab, donc une fédération de radios associatives et locales en Bretagne, pour mener l'été culturel. Donc l'été culturel, c'est quoi ? C'est une opération nationale qui est impulsée par le ministère de la Culture chaque année et qui incite à mettre en place des animations culturelles pour des personnes qui ne partent pas en vacances. Et on a trouvé fort intéressant de notre côté de s'inscrire dans l'été culturel pour mener un collectage de mémoire auprès des seniors de certaines de nos communes pour justement éclairer un peu le passé des petites cités de caractère et enrichir nos connaissances sur ces villes.
D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, Sarah ? Dites-nous.
Alors, du coup, on se connaît un petit peu avec Fantine. Je suis maintenant photographe. Mais avant, j'ai une précédente vie professionnelle. Pendant plus de 10 ans, j'étais chargée de communication. Et mon dernier poste, en fait, j'étais responsable d'une association de promotion des canaux de la Bretagne et de la Loire-Atlantique.
Donc, on partageait les mêmes bureaux.
Exactement. On était voisins de bureaux. Et donc, je faisais de la photo pour mes précédentes activités pro parce qu'il fallait fournir des visuels. Donc, je me suis formée en photo. Et en fait, par le bouche à oreille, j'ai fait plusieurs types de photos pour des particuliers, des associations, collectivités ou alors des professionnels.
OK.
Et j'ai décidé de me lancer et de franchir l'aventure de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai annoncé ça aussi à mes voisins de bureau. Et comment ça s'est passé ? Après, vous m'aviez demandé de faire des petites photos de portraits.
Ouais, c'est ça. Déjà, on était très emballés par ton travail pro qu'on avait pu voir du coup sur ton site internet. Ensuite, tu nous as pris en photo pour nos photos d'équipe dans les nouveaux locaux. Et c'est vrai que dans l'asso, pour nos projets, on aime bien fonctionner à l'envi avec des personnes de confiance. Donc, comme on aimait bien l'approche de Sarah très centrée sur l'humain, on s'est dit que pour nos portraits d'habitants et d'habitantes dans les petites cités de caractère, on avait déjà identifié la personne. On n'a pas cherché à mettre en concurrence Sarah ou autre. On lui a juste proposé de travailler avec nous pour ce premier essai de l'été culturel. Et ma foi, ça prend forme.
Alors, le projet consistait en quoi exactement ?
Alors, c'est un projet donc, de collecte de mémoire. Donc, il y a sept trios qui sont constitués aux quatre coins de la Bretagne, constitués à chaque fois d'une radio, membre de la Corlab, d'une commune petite cité de caractère et aussi d'un équipement de proximité type EHPAD ou tiers-lieu. Et donc, de juin à septembre 2023, des enregistrements de ces seniors se sont mis en place, donc des enregistrements individuels, collectifs, pour discuter avec les aînés de la vie d'antan et traiter différentes thématiques, le patrimoine des cités, leurs paysages, des animations, des métiers, pas mal de thématiques. Et donc toute cette matière collectée sera diffusée sur les ondes prochainement. Et on souhaitait aussi réaliser un beau catalogue gardant trace de cette aventure qui mette en regard les photos de Sarah pour donner aussi un visage à nos communes et puis leurs témoignages écrits mais aussi audio. On va dire que là, l'image est vraiment complémentaire au texte.
Et qu'est-ce qui vous a plu, Sarah, dans ce projet ?
Ah, qu'est-ce qui m'a plu ? Alors, comme le disait Fantine, j'adore photographier les gens. Donc le projet en lui-même, je trouvais ça sympa. Et puis le fait de pouvoir collecter des visages, les mettre en relation avec les paroles écrites dans le catalogue, mais aussi les podcasts que toutes les radios vont produire. Enfin, je trouvais ça très motivant. Et puis le fait que ce soit aussi sur différents territoires de la Bretagne, le fait de pouvoir rencontrer vraiment beaucoup de personnes très différentes, en fait, parce que là, on pourra en parler, mais on peut aller dans des EHPAD, dans des résidences, on peut aller directement chez les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et le projet aussi de pouvoir, figer avec mes photos ces instants qui sont quand même précieux parce que les gens se confient beaucoup sur leur vie. Ça a terminé, entre guillemets, de m'emballer. Et je pense que le résultat va être vraiment, vraiment sympa.
On va rapidement, parce que là, le temps nous est vraiment compté. C'était au niveau d'expérience, c'était quoi ? Ça vous a...
Ça s'est passé sur plusieurs journées et à chaque fin de journée, c'était vraiment... Mais j'étais boostée, c'était hyper enrichissant. J'étais reconnaissante de pouvoir travailler sur un projet enfin vraiment qui avait vraiment du sens. C'est ça aussi que j'expliquais à Fontine, c'est ça aussi qui me motivait particulièrement. Et vraiment je me disais, mais en fait c'est trop bien de vieillir, parce qu'en fait on a rencontré plein de gens qui ont eu des vies qui sont très différentes, qui ont eu des vies extrêmement différentes, qui étaient heureux de partager, heureux de se confier, et qui étaient bien dans leur vie. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire comme projet, et je les remercie beaucoup de m'avoir fait confiance. Et c'est aussi des très belles rencontres.
D'accord. Fantine, rapidement, pouvez-vous nous dire quelle radio et quelle ville étaient concernées par ce projet ?
Oui, effectivement. Donc à Dol de Bretagne avec la radio Parole de Vie, Guémené-sur-Scorff avec la radio Broad-Joined, Le Fou et Pont-Croix avec vous, du coup, Davy, Radio Évasion, Moncontour avec Radioactive, Montfort-sur-Meu avec Fréquence 8 et enfin Rochefort-en-Terre avec la radio Plume FM. On les remercie.
Voilà, donc merci beaucoup Fantine Rozel et Sarah Chajari d'avoir participé à l'émission. Vous pourrez retrouver cette interview sur notre site à radioévasion.net.